Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre énervé qui fait coup double, vous le savez, chaque soir, ça commence à 18h hein, sur franceinter.fr et en podcast, et puis ça recommence 22h minuit, mais c'est à l'antenne, comme tout le monde. Une émission virtuose ce soir avec Marc Lévy, totalement hanté par une histoire de fantôme, Ghost in Love, un roman. De Paris à San Francisco, les aventures de Thomas, pianiste reconnu, célibataire, qui dort parfois encore chez sa mère, et qui se voit visité par le fantôme de son père qui a quelque chose à lui demander. Je sais, c'est fou, à moins que vous n'ayez fumé. Marc Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un virtuose du dessin, Jean-Pierre Gibras, le créateur de Sursis, se raconte dans un album Entretien, l'hiver en été. On apprend tout, ses obsessions pour le début du XXe siècle, pour les femmes toujours jolies, pour les mecs qui ont des gueules, son passé communiste, son sens de la lumière et du volume. Ce n'est plus un album, c'est une masterclass. Jean-Pierre Gibras, bonsoir.
Bonsoir.
Mercredi, c'est le jour de Soro Solo. Il est avec nous pour l'Afrique en solo, la chronique. Ce soir, les Comores et la Réunion.
Tout à fait. Oui, je voudrais vous présenter en tout cas Pigment et non Piment, parce que Piment, ça c'est épicé. Pigment, c'est les couleurs. Et c'est le nouvel album du duo Nathalie Natiembe de La Réunion et de Mounawa des Comores.
On se retrouve tout à l'heure sur Rosolo et dans le Énervé la suite. Le Festival de Cannes s'est ouvert hier. On va parler cinéma, mais un cinéma indépendant, Benoît Lagane. Ça tourne ou ça coupe?
Oui, on va faire la fête au cinéma français tout à l'heure, au moment où tout le monde part à Cannes. Le cinéma indépendant, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? On en parle avec nos invités. Le réalisateur Michel Leclerc, la productrice indépendante Caroline Bonmarchand et puis deux journalistes chopés au vol avant leur départ pour Cannes, François Barge-Prieur des Fiches du Cinéma et Véronique Lebris de Cinéwoman.
Si on en parle, c'est que ça ne va pas. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Histoire de fantôme pour vous, Marc Lévy, c'est le nouveau roman Ghost in Love, le roman, et puis un album d'entretien, l'hiver en été, pour tout connaître de votre dessin, Jean-Pierre Gibras. Vous connaissiez l'un l'autre avant d'être réunis sur ce plateau?
Non.
Personnellement, non.
Personnellement, non.
Non, mais je connaissais beaucoup. Bien sûr, moi, je connaissais le travail de...
De Jean-Pierre Gibras?
Absolument.
Parce que je sais que vous êtes un grand amateur de bande dessinée.
Absolument, oui. Et je dois dire que j'ai adoré l'hiver en été. Enfin, je trouve que c'est un album sublime. Bon, les dessins sont... les dessins, c'est pas une surprise.
Non, c'est à tomber, ouais.
Les dessins sont juste à tomber par terre. On a juste envie de débrocher le livre pour tous les encadrer et rêver. Et le texte est magnifique. Vraiment, le texte est formidable. Donc j'ai... Bon, merci, j'ai passé un moment magnifique. Bah, j'ai pas fini d'ailleurs lire le texte.
Tout un entretien. Bah, c'est vraiment formidable. Ouais, c'est formidable. Ce que je dis, une masterclass. Juste une question. Vous avez été adapté en BD, vous aussi? Vous aviez même été... vous aviez signé le scénario des Enfants de la Liberté, Marc Lévy?
Non, j'avais pas signé le scénario.
Non.
C'est Alain Grand l'a entièrement scénarisé il est resté très fidèle au texte du roman, mais c'est Alain Grand qui l'avait vraiment scénarisé.
Vous savez dessiner?
Non, c'était.
Vous avez dirigé un cabinet d'architecte intérieur et vous ne savez pas dessiner.
Ouais, je sais. Ouais. C'était une grande frustration et si vous me mettiez dans une cellule de prison et que vous me disiez quand tu auras dessiné une pomme, tu sors, je prendrais 10
chevaux. Perpétuité.
Ouais, je prendrais perpète. Mais c'est comme ça. C'est une grande frustration. C'est un de mes rêves d'enfant de s'arrêter de savoir dessiner.
D'ailleurs, il y a des dessins. On en parlera tout à l'heure dans le roman que vous venez de publier. Jean-Pierre Gibras, je vous appelle comme ça ou je dis Gibras comme sur la couverture? Ça, c'est formidable, hein. Jean-Pierre Gibras, bon, c'est connu, mais alors Gibras, ça fait
bien,
vraiment...
Ça me rappelle... mais en général, c'était pas bon signe. Pour moi, Gibras, ça me rappelle le lycée. Et quand j'entendais, par exemple, on va envoyer Gibras au tableau, c'était jamais très très bon.
je peux imaginer.
Il n'y avait pas le prénom, il y avait juste le nom. Et
au lycée, vous commenciez déjà à dessiner, j'imagine, très tôt.
Oui. En fait, j'ai passé même pratiquement toute l'année de la première et la terminale à dessiner. J'étais en telle perdition par rapport à l'espérance que pouvaient avoir mes parents d'une carrière classique. on m'avait mis en section scientifique. Par défaut, parce que j'étais tellement mauvais en matière littéraire que j'étais un peu plus dégourdi avec les chiffres. Donc je m'étais retrouvé en seconde C, sauf que là, il y a un moment où il faut travailler. Et en fait, j'ai travaillé, mais le dessin et pas les maths. Résultat, ça a été quand même une descente aux enfers.
Et déjà, vous aviez ce trait-là, déjà à l'époque, quand vous commencez, un trait, on va pas du tout dire ni naturaliste, ni réaliste, mais un trait presque profondément classique.
Réaliste, non, j'aime pas ce mot-là parce que le réalisme pour moi c'est représenter les choses telles qu'elles sont et l'intérêt, comme dans l'écriture, Berroyer disait un truc très vrai. Il dit tout.
Berroyer, avec qui vous avez travaillé à vos débuts. Ouais.
Il disait tout a été raconté. Il y a qu'une chose qui compte, c'est la façon de raconter les choses. C'est très très vrai. Mais le dessin, c'est pareil. Le dessin, l'intérêt, c'est le filtre que vous allez poser sur ce que vous voyez et la façon dont vous allez interpréter ce qui est devant vous. Et s'il y a un intérêt, il sera là, quoi. C'est pas dans la réalité des choses, c'est dans l'interprétation que vous allez en faire. Ouais.
Marc Lévy, avant de commencer le premier roman, c'était il y a des années, tout le monde s'en souvient. Il y avait déjà eu un passé quand même d'écriture, parce qu'il y a eu un tournant dans votre vie avec ce premier roman, si c'était vrai. On était dans les années...
J'avais écrit un manuscrit en 78,
ah ouais,
pendant que j'étais à San Francisco, à Berkeley, qui était horriblement mauvais et que j'avais jeté aussitôt terminé.
Ça racontait quoi?
Je crois que je préfère ne pas en parler. Mais non, c'était très mauvais. Mais je l'avais fait lire à mon père quand même en rentrant, qui m'avait d'ailleurs dit très franchement que c'était assez mauvais, mais qui m'avait dit, mais ce qui est bien, c'est que tu as écrit 350 pages.
Ah oui, ça veut dire que vous étiez allé jusqu'au bout du
Mais évidemment, moi, je n'ai pas du tout cette partie-là de la phrase que j'ai entendue. La seule partie que j'ai retenue, c'est que c'est assez mauvais. Et du coup, après, j'ai arrêté d'écrire pendant...
Pendant de très nombreuses années.
Mais en fait, j'écrivais plein de petites histoires dans des carnets.
Que vous avez retrouvées aujourd'hui?
Non, alors, en fait, ce qui m'a amené vraiment à l'écriture, c'est quand mon fils avait près 7-8 ans, je m'étais embarqué, j'étais un père célibataire, et je m'étais embarqué, le soir, j'adorais lui raconter une histoire, et j'avais eu la mauvaise idée de m'embarquer dans une histoire à épisode.
Ouais.
Et donc, je me faisais très souvent reprendre, parce que l'épisode, il y avait soit une répétition, soit l'épisode n'était pas... Et pour plus me faire engueuler, dès qu'il dormait, j'allais dans mon bureau et hop, j'écrivais l'histoire du lendemain. Et alors, bout à bout, ça a tenu 3 ans quand même, cette histoire.
Ah ouais, c'est énorme.
Vous voyez,
ouais. Vous étiez de la Scheherazade de votre fils.
Voilà. Quoi. Et puis un jour, il m'a dit que la télé... Un soir, il m'a dit, consterné, il m'a dit, tu sais, papa, la télé, c'est quand même mieux que tes histoires. Et là, hop, terminé. C'est comme ça que je me suis dit, puisque je peux plus écrire à l'enfant, je vais écrire à l'adulte, il deviendra un jour.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, vous dédiez aujourd'hui ce nouveau roman à votre père. On va y revenir dans quelques instants. Jean-Pierre Gibras, vous, c'est un livre d'entretien, un artbook, c'est-à-dire à la fois plein de planches que vous avez sélectionnées, mais aussi un entretien avec notre consoeur Rebecca Manzoni. Mais moi, j'ai l'impression, en regardant ce travail, qu'on a droit aussi à une rétrospective de tout le travail, avec des planches qui viennent de plusieurs albums, dont Le Sursis, qui est votre chef-d'œuvre, en tout cas, un tournant dans votre vie d'homme. C'est comme ça que commence le texte et l'entretien avec Rebecca Manzoni. En quoi ça a été un tournant sur le plan du dessin, sur le plan de l'histoire, pour vous, Le Sursis?
Alors,
on est en quelle année?
On est en quatre... Enfin, le livre sort en 97. Et en fait, c'était une idée que j'avais... en fait, je me suis mis à écrire par défaut, parce que les scénarios qu'on pouvait me présenter, j'ai eu la crise de la quarantaine en me disant, ça fait 20 ans que tu dessines et t'es jamais allé au bout des exigences que tu estimes, que les autres estiment te devoir. Enfin, voilà, j'étais très très critique de tout ce qui se faisait. Et je me rappelle, je voyais tous les mecs me dépasser, les André Juillard, tout ça, qui faisaient des choses qui était parti d'un dessin assez moyen. On avait tous un dessin très moyen en démarrant. Ouais. Sauf que lui, il était déjà arrivé à des altitudes incroyables. Et moi, je me disais, je piétine, je tourne en rond. Et à 40 ans, voilà, je me suis dit, voilà. Et donc là, du coup, j'attendais une histoire. J'étais pas forcément, je me posais pas l'obligation de la raconter moi-même. Mais tout ce qu'on me présentait, il y avait une adhésion qui était à 52%, entre 52
et 60. Ouais, donc c'était pas la peine d'y aller, quoi.
Voilà, pour moi, étant donné l'ambition que j'avais d'aller au bout de mon dessin, je me disais, il faut quand même qu'il y ait un truc où tu sois totalement convaincu. Voilà. Et donc, je me suis mis à raconter cette histoire, et en prenant tous les éléments qui me tenaient à cœur, à savoir une histoire d'amour de ma jeunesse, vraiment, une histoire de, c'est un peu comme si tout d'un coup, vous vous dites, j'en ai marre d'aller toujours au même restaurant. Je vais ouvrir un petit truc et je vais faire ma cuisine, mais ma cuisine vraiment en me servant de tout mon passé. C'est-à-dire, voilà, pour moi, le passé, c'était l'Aveyron, c'était les vacances chez mes grands-parents. Et c'était toutes ces périodes historiques dont j'entendais parler. Mes grands-parents étaient militants communistes, donc le 36, tout ça, c'était... j'ai eu le bac grâce à 36, en fin de compte, vous voyez, c'est je remercie encore Léon Blum, parce que je lui dois au moins mon bac. Toutes les notes étaient pitoyables, sauf la note en histoire, parce que je suis tombé sur le Front Populaire, et on était avec le prof qui a dû se demander d'où je sortais.
Parce que vous saviez tout sur cette période.
Mais je savais tout, et alors on en était à des nuances du genre, est-ce que tel artiste ou tel écrivain était... sympathisant, compagnon de route du Parti communiste ou carrément adhérent. C'était assez pointu. Comme...
Et ça, vous le saviez.
Et je le savais. Oui,
le Front Populaire, l'Occupation, ce sont exactement les périodes que vous traitez dans toute votre œuvre. On va y revenir, bien sûr, avec vous, Jean-Pierre Gibras, tout à l'heure. Je vous ai demandé des sons pour faire plus amplement connaissance l'un et l'autre. Ça commence par un son de télé, et plus que ça, bien sûr, Marc Lévy.
Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Aucun problème pour marcher.
Ce son, c'est vous qui l'avez choisi, Marc Lévy. Vous nous en donnez la raison.
Bah, écoutez, oui.
Ça vous a marqué?
Oui, oui, beaucoup. Oui, parce que, en fait, puisque vous parliez de l'école, en 60.
Vous étiez gamin, du coup, à ce moment-là. Oui, oui.
Et en 60, donc là on est en 69, hein, et on est
50 ans.
On est en été 69, et à la fin du mois de mai de la même année, j'avais reçu c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma vie, j'avais reçu un prix et à l'école. Et qui, à mon avis, ne devait pas être un truc plus important qu'un prix de bonne conduite. Vous voyez, enfin, pas un truc de quoi se prendre au sérieux. Et le prix en question, c'est une vieille édition d'occasion de La Terre à la Lune de Jules Verne. Et c'est le premier livre qu'on m'offre. Et donc je l'ouvre, et là il y a une préface. Et la préface explique que au moment de la sortie de La Terre à la Lune, le Jules Verne a été énormément raillé parce que toute la société considère que cette histoire n'a aucun sens, que c'est n'importe quoi, que c'est ridicule, que d'imaginer de telles choses c'est grotesque et que c'est une perte de temps qui est vraiment... Et donc il est très très critiqué. Bon. Et un mois après avoir lu ce livre et cette préface, ma mère vient me chercher à 2h ou 3h du matin et m'emmène voir les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et je me souviens, je regardais pas du tout en fait Armstrong en train de marcher sur la Lune. Je m'en fichais un peu de ça. Je regardais les hommes de Cap Canaveral derrière les terminaux, parce que d'abord à l'époque un ordinateur, on savait pas ce que c'était. Donc ces hommes en chemisette qui étaient derrière des écrans et des terminaux, ça représentait le summum de l'intelligence du monde. C'était les hommes qui avaient envoyé un homme sur la Lune. C'était, enfin moi je les regardais, c'était les faiseurs de miracles. Et je regardais ces hommes et j'ai ce souvenir de mon enfance comme ça où j'ai 8 ans et où je me suis dit en fait ils sont tous là parce qu'ils ont lu le livre de Jules Verne. Et c'est là que j'ai compris après je mettrais des années à me l'avouer, mais c'est là que j'ai compris que finalement la plus belle chose de l'humanité, c'est sa capacité d'imaginer. C'est ce qui nous relie les uns aux autres, c'est l'imagination, et c'est ce qui est d'ailleurs raillé par tous les cyniques. Et l'imagination, c'était voilà, je me suis dit c'est ça. En fait, plus tard, je sais ce que je veux faire comme métier, je veux imaginer.
Ce que vous avez fait depuis, Marc Lévy.
Moi, j'ai mis du temps avant, mais bon, c'est venu comme ça.
Un son de cinéma enchanté pour vous, Jean-Pierre Gibras.
Écoute les orgues. Le joue pour toi, il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con.
Un mot sur ce son que vous avez choisi, Jean-Pierre Gibras. Gainsbourg, dans...
Oui, alors, plein de raisons différentes. Il y a un côté totalement lancinant dans la rythmique qui suit, parce que là c'est un moment dans le film, je crois que c'est...
Le film Le Pacha,
il y a un moment où effectivement Gabin rentre dans ce studio au moment où Gainsbourg est là normalement pour enregistrer la chanson, mais c'est surtout qu'il y a un des musiciens qui est impliqué dans l'histoire policière, quoi, voilà. Mais cette rythmique qu'on entend là, à base de percussions, est lancinante. Je trouve qu'elle a un son avec une réverbe très puissante et tout, mais on pourrait penser que c'est démodé. Mais moi, je trouve que ça, on écouterait ça aujourd'hui, ça sortirait ça serait une bande son d'un film aujourd'hui, ça marquerait tout le monde quand même, parce que ça ponctue tout le film. Et puis la décontraction insolente de Gainsbourg là-dessus, quand il dit c'est assez beau, non?
On va se retrouver dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose d'écouter notre invité live de la semaine dernière. Sa session est encore à revoir sur le Facebook de l'émission. Malik Djoudi nous a donné de belles sueurs dans le NRV.
j'aime pas le mois d'août.
Les belles sueurs de Malik Judy, un extrait de son dernier album Tempérament, un disque France Inter, évidemment.
Rendez-vous.
Laurent Goumard. Sur France Inter.
Rachmaninov, pour ouvrir ce plateau avec vous, Marc Lévy, une musique qu'on entend au début et plus tard dans le nouveau roman Ghost in Love, un roman chez Robert Laffont. Un mot sur ce que représente ce concerto numéro 2 qui a une histoire composée par Rachmaninov à un moment important de sa vie. Vous l'expliquez à un moment donné.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un morceau qu'il compose, il sort d'une très grande dépression. Qui a failli l'emporter, et il a notamment traité sa dépression par hypnose. Ce qui, pour l'époque, est quand même assez avant-gardiste, il faut le dire. Et donc, c'est un morceau qui raconte la résurgence d'un homme à l'intérieur de lui-même, et en même temps, qui témoigne, notamment au travers de ce premier mouvement, de ses tourments, et avec une profondeur de chant qui est fabuleuse, puisque dans ses tourments, il y a aussi tout son passé, toute son identité, toute la géographie de ses tourments, avec cette musique qui nous fait entendre les vents de la steppe, qui balaye la steppe. Et donc c'est une composition de mots, de notes et de mots extraordinairement subtiles et en même temps denses, sous cette apparence de plein de notes et de plein d'instruments.
Et qui donne une clé de lecture pour le roman. Il y a d'autres musiques très surprenantes d'ailleurs dans ce roman. Il y a vraiment une bande son du disco pour un enterrement à San Francisco, du Brahms, pas très bien joué par votre pianiste de personnage parce qu'il est troublé par des apparitions qu'il voit au premier rang. Vous travaillez en musique d'ailleurs, vous écrivez en musique.
Oui.
Ah ouais.
Oui. Brahms, c'est pas parce que c'est pas l'apparition. Enfin, Brahms, c'est parce qu'il y a une partie de sa vie sexuelle qui a été très influencée.
Qui est liée à ça. C'est-à-dire, comme il a baisé sur Brahms, chaque fois qu'il joue, il va un peu plus vite.
Voilà, c'est ça. Il a eu une passion amoureuse et sexuelle avec une violoniste. Et
Sophie.
Sophie, appelons un chat, il s'éclatait sur Brahms. Et donc, une fois la rupture consommée, à chaque fois qu'il est sur scène et qu'il doit jouer Brahms, le chef d'orchestre est obligé de le rappeler.
De ralentir le tempo. Et donc vous écrivez en musique.
Oui.
Ah oui, c'est assez rare quand même pour un écrivain.
Mais pas en chanson, parce qu'en chanson, les mots viennent
percuter
les autres. Mais en musique, oui, tout le temps.
Retour à Ghost in Love, un roman, c'est l'histoire de Thomas, pianiste virtuose, célibataire depuis sa dernière histoire avec Sophie. Pianiste, le choix de cette profession, c'est quelque chose qui vous rappelle une histoire familiale. Il y avait une pianiste chez vous.
Oui, il y avait une pianiste cachée, en fait. Il y avait une pianiste cachée. Vous parlez de ma grand-mère?
Ouais, c'est ça?
Ouais, c'était une pianiste cachée.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'elle avait été une grande pianiste et elle avait deux filles, ma mère et la sœur de maman. Et la sœur de maman a été atteinte de la poliomyélite à l'âge de 15 ans et elle en est morte à 18. Et donc, pour lutter contre la paralysie, ma grand-mère faisait travailler à sa fille des gammes. Pour lutter contre la paralysie des mains. Et en fait, quand sa fille est morte, elle a arrêté de jouer. Elle a plus jamais joué. De toute sa vie. Et donc, comme moi je suis né des décennies après, je ne savais pas. Et puis, je me mets au piano, j'entre au petit conservatoire. Et puis, un jour, je dois répéter le Clair de Lune de Debussy. Et donc, je suis dans ma chambre, sur mon piano droit, et je travaille le Clair de Lune de Debussy. Et tout à coup, ma grand-mère vivait avec nous, et ma grand-mère rentre dans ma chambre, ça, et elle s'assit sur le tabouret à côté de moi, elle m'enlève les mains du clavier, elle le joue hallucinamment, et elle me dit, tu vois, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Et hop, elle s'en va.
Et vous ne l'aviez jamais vu toucher un piano auparavant?
Et après, j'ai compris que c'était le morceau qu'elle jouait avec, justement, ma tante, Mais c'était incroyable. Et c'est après j'ai mis ma petite enquête, mais c'est comme ça que voilà.
Comme quoi, le merveilleux n'est pas que dans les livres, dans la vie non, aussi de Marc Lévy.
Alors, la musique.
La musique aussi. Alors Thomas dort parfois chez sa mère, qui a un sacré tempérament. Elle est veuve. Son mari chirurgien est mort il y a quelques années, mais ils étaient séparés depuis pas mal de temps. Eh bien, ce mari revient. Du moins, il revient hanter Thomas, à moins que ce ne soit un cauchemar, à moins que ce ne soit les effets de la drogue que Thomas a fumée, il en a trouvé chez sa mère, et c'est de la bonne. Mais non, Raymond est bien un fantôme qui a une chose très précise à demander à son fils, une requête qui concerne un amour passé, pas aller plus loin, hein. J'ai besoin de toi pour accomplir quelque chose dont mon éternité dépend. Et pour cela, Thomas doit se rendre à San Francisco. Le roman, c'est à la fois le parcours d'un musicien qui va devenir aussi compositeur et celle d'un fils qui se réapproprie le roman familial. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que très vite, il y a une phrase qui percute dans le roman. C'est ce que dit le fantôme à son fils. Il lui dit « Un adulte, c'est un enfant qui a des dettes. » Moi, je me suis demandé quelle dette vous avez envers votre famille parce que vous dédiez ce roman à votre père, et ce n'est pas un hasard, j'imagine, Marc Lévy. Vous êtes en dette de quoi ?
Non, mais il ne le dit pas dans ce sens-là. Je ne crois pas. La dette, avoir des dettes, c'est aussi avoir des reconnaissances. Vous voyez, il y a des reconnaissances de dettes. Et quand je dis un adulte, c'est un enfant qui a des... Enfin,
ouais. C'est un enfant qui a des dettes.
Ça veut dire que je crois que la part d'humanité que nous gardons en nous, c'est cette part qui nous a été donnée pendant l'enfance. Et ceux qui s'éloignent de l'enfance et qui la négligent et qui l'oublient, d'une façon ou d'une autre, s'éloignent momentanément de cette part d'humanité. Et puis d'ailleurs, quand ils vieillissent, elle finit par pour la plupart d'entre nous, elle finit par nous rattraper. Et ça rejoint un peu cette phrase de Saint-Ex, vous savez, quand le petit prince se rebelle et il lui dit parce que ça c'est pas des choses sérieuses. Et moi, ce qui me terrifiait quand j'étais enfant, c'était les adultes sérieux. J'avais une peur bleue de ces adultes-là. La tribu n'est pas possible. Tous ceux qui commencent par vous dire c'est impossible parce que ils sont drapés dans leur sérieux et dans leur certitude. C'est vachement beau un adulte qui a des dettes de l'enfance.
Les adultes pas sérieux, ce sont les parents de Thomas. La mère, qui a vécu 68 d'ailleurs, qui le lui rappelle, qui dit « Je suis, avant d'être ta mère, j'étais une fille de la génération 68 ». C'est quelque chose qui...
Non mais parce que Jeanne, elle a un vrai caractère, parce que c'est, je dirais que c'est un des conflits qui nourrit la crise d'adolescence, c'est que on voit en nos parents des montagnes qu'on passe notre vie à escalader sans vouloir s'avouer qu'on a peur d'arriver au sommet. Mais c'est lorsque l'on devient parent nous-mêmes qu'on se rend compte que avant d'être nos parents, ce sont des êtres humains avec leur vie, leurs amours, leur fragilité, leur faiblesse. Et il y a toute une tolérance et une acceptation, une compréhension qui se fait quand on passe de l'autre côté. Et Jeanne, c'est une grande gueule. Jeanne, c'est une grande gueule. Et Raymond, il a son franc-parler, il a son vocabulaire, il a sa façon de dire les choses. Et son sens de la provocation. Donc Jeanne, c'est une femme qui est, elle est magnifique. Elle a son texte et elle rappelle de temps en temps à son fils qu'elle est sa mère, mais que c'est aussi une femme.
Que c'est aussi une femme. Alors il y a plein d'histoires, notamment de deuil, à travers ce roman entre la France et les États-Unis. Il y a un indice qui m'a intrigué, mais c'est peut-être une anecdote et peut-être que ça n'a rien à voir. Mais j'ai quand même cherché, j'ai rien trouvé. En fait, il y a une inscription gravée sur un banc dans un cimetière à San Francisco, et sur ce banc, qui est une sorte de tombe, il y a marqué à la mémoire aimante de Gérald Fillmore, 1949-2008. Et c'est tellement précis que je me suis dit, mais qu'est-ce que Marc Lévy veut raconter à travers cet indice?
Ça, c'est très personnel, je ne le dirai jamais.
Ah, donc, c'est quelque chose de très...
Oui.
Ah, oui.
Mais c'est très
parce que Gérald Fillmore, j'ai regardé, j'ai demandé à toute mon équipe de chercher sur Internet, ça n'existe pas, et je me suis demandé si c'était l'anagramme de quelqu'un, mais vous ne révélerez rien.
Non. Vous connaissez la petite anecdote de... Je sais pas, on n'aura pas le temps, mais aussi la petite anecdote de justement d'Armstrong. On ne sait pas si c'est une légende ou une fausse, mais on aurait entendu à la NASA Armstrong au moment où il remonte dans le LEM dire avant de quitter la Lune. Alors j'ai oublié le nom exact, mais il dit bonne soirée, Mr. McLean. Et donc tous les mecs à la NASA s'interrogent en disant pourquoi il a dit ça, c'est une phrase très importante, il y a même des gens qui se demandent est-ce que c'est un espion qui travaille pour la Russie, est-ce que c'est une phrase codée, il rentre, il subit un débriefing, un interrogatoire, etc. On l'interroge et pendant 30 ans on le fait chier avec cette phrase en disant pourquoi vous avez dit ça, et il dit je ne vous le dirai pas, ça me regarde, c'est très privé. Et puis 30 ans passent, et au bout de 30 ans, il dit, mais maintenant je peux vous le dire, puisqu'il est mort, donc j'ai été tenu au silence, mais maintenant je peux vous le dire. Alors lui, mais pourquoi vous avez dit bonne nuit, monsieur McLean? Il dit, ben voilà, parce que oui, quand j'étais gosse, un jour, mon ballon est passé à travers la haie de mes parents chez le voisin, et donc je suis allé le rechercher, et au moment où je suis allé le rechercher, j'ai entendu une dispute entre mon voisin, qui s'appelait monsieur McLean, et sa femme. Et ce monsieur McLean a dit à sa femme, mais alors quand est-ce qu'on couchera ensemble? Et sa femme lui a répondu, quand le gosse d'à côté ira sur la lune.
C'est excellent, comme les gens de presque urbaine. Donc ça veut dire que dans 30 ans, je vous ferai encore chier pendant 30 ans, Marc Lévy, et que dans 30 ans, vous me direz qui est ce Gérald Fudemour. En tout cas, donc ce nom codé est dans Ghost in Love, en plein milieu, un roman chez Robert Laffont et Versilio. Vous restez avec nous, Marc Lévy. On va parler bande dessinée, on va parler histoire dans quelques instants avec Jean-Pierre Gibras.
Everyone does their thing a little bit differently. Everyone does their thing a little bit differently. Oh, every man does his thing a little bit differently. Every man does his thing a little.
Differently, signé par la Britannique Alani, la programmation Écoutez la différence, ça vous rappelle quelque chose, hein, ça, de Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous.
They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot.
Laurent Goumard.
Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot.
Musique pour ouvrir ce plateau avec vous, Jean-Pierre Gibras. Oui, on va parler dessin, c'est lié d'ailleurs. C'est Johnny Mitchell qu'on entend, qui vous met les larmes aux yeux. J'ai pu le lire dans cet artbook « L'hiver en été » que vous publiez. C'est du moins ce que vous confiez à Rebecca Manzoni, notre consoeur, qui a mené cet entretien. Johnny Mitchell, les larmes aux yeux.
Pire que ça, quand on a évoqué ce truc-là, j'ai fondu en larmes, carrément, avec Rebecca.
Ouais.
On se connaît depuis des années, hein, 20 ans. Et je m'y attendais pas, pire non plus, évidemment. Et je parlais de la puissance de l'émotion. Pour moi, il y a deux, comment dire, deux pôles de, au nord ou au sud, on les met où on veut, de l'émotion pure, quoi. Il y a Jimi Hendrix, pour moi, et Joni Mitchell. Et peut-être avec un petit bénéfice encore d'efficacité à Joni Mitchell. Et j'ai toujours rêvé, moi, mais malheureusement, je ne fais pas partie de cette catégorie-là de dessinateurs, mais d'être dans cette cette logique d'arriver à ce que l'émotion soit devant tout le reste. Joni Mitchell, c'est une musicienne hors pair. Elle compose des mélodies magnifiques. Souvent, c'est des accords ouverts de guitare qui donnent une couleur déjà. Rien que la couleur de l'accord, on n'a pas l'habitude de l'entendre. La succession des accords est toujours à la fois fine et puis là aussi émouvante et toujours excessivement bien réussie. Mais il y a la voix qui se pose là-dessus, ce qu'elle raconte. Et malgré toutes ces qualités qui sont hors pair, l'émotion est encore devant l'observation de la qualité, quoi. Pour moi, ce qui différencie les grands artistes même des gens très talentueux, ce qui différencie Vermeer pour moi même de Rembrandt. C'est-à-dire qu'on peut pas expliquer par où ça passe. À partir du moment où on sait plus par où ça passe, c'est là où la puissance d'émotion, elle dépasse tout.
Vous l'avez dessiné, Joni Mitchell?
Je l'ai dessiné, oui, une ou deux fois, oui.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais à titre privé, pour j'en dirai pas plus, comme disait
Joker. Décidément. À titre privé. Vous l'avez dessiné habillé, quand même.
Ah oui, oui, oui. Ah, habillé. Non, mais
rassuré. L'hiver en été, un mot d'abord sur le choix de ce titre pour un album d'entretien qui est aussi une rétrospective de votre travail, puisque vous alignez des planches qui viennent de plusieurs albums, Le Sursis, Mathéo, Jeanne et Cécile, l'hiver en été.
J'avais peur de cette question, je me suis dit peut-être que
vous avez préparé la réponse.
Mais non, justement, j'ai beau même chercher, je n'arrive pas à trouver de réponse pertinente. En fin de compte, je joue là aussi presque un joker en disant c'est comme les poésies que vous ne comprenez pas vraiment le sens, mais ça vous plaît. Parce que ça sonne, ou chez Rimbaud, il y a des trucs où on ne sait pas trop d'où ça sort, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire non plus. Par contre, ça provoque là aussi une émotion. Donc, on a cherché avec Vincent Audin, Daniel Maguen, etc. On a cherché un titre et voilà, on a retenu celui-là par autant l'été en hiver, c'est totalement banal, mais l'hiver en été, il y a un paradoxe qui fait que déjà on se pose une petite question, puis je ne sais pas. Moi, je trouvais que ça sonnait, et puis voilà.
Alors, cet album vient couronner, en fait, 40 ans de travail. Et oui, vous aviez été sacré meilleur espoir du Festival d'Angoulême en 79 pour Dossier Goudard avec Jacky Berroyer, qui était votre... Vous avez commencé avec lui, avec Jacky Berroyer. Oui. C'était quoi, ce Dossier Goudard?
C'était... Berroyer, c'est l'intelligence vive la plus affûtée que je n'ai jamais croisée de ma vie. C'est-à-dire, là, dans le studio, il verrait, je sais pas, quoi que ce soit se passer, il en fait un petit module exceptionnellement drôle et très juste, quoi. C'est un peu comme la qualité de l'écriture. Il faut pas faire de l'effet. Il faut déjà commencer par essayer d'être juste. Et lui, il observe un petit truc et il le tord de façon à ce que ça soit drôle. Et en permanence, ça peut être sur n'importe quel.
Et donc, Dossier Goudard?
Alors, pour répondre à votre question. Ouais. Dossier Goudard, ça va être long, là, peut-être.
Très rapidement.
Très rapidement. Un jour, je vais voir Choron avec quelques planches. Et Choron voulait, j'avais fait une parodie de Tintin avec les Dupont qui faisaient de la planche à roulettes. Et alors à ce moment-là, tout ce qui touchait la planche à roulettes se vendait à 100 000 exemplaires. Il y avait je ne sais pas combien de bouquins de revues sur la planche à roulettes, ça cartonnait à mort. Donc Choron avait eu cette idée-là dans son esprit dégourdi et mercantile. Il s'était dit, Berroyer, il faut absolument que tu me fasses une bande dessinée sur la planche à roulettes qui était... plus qu'à la mode à l'époque. Et Berroyer faisait une petite chronique qui s'appelait « Ou à l'autre ». Et c'était des gamins qui se retrouvaient au pied de leur cage d'ascenseur, cage d'escalier, là, et qui commentaient la vie, les mômes à deux sur les mobilettes, qui dragouillaient les filles et qui n'étaient pas... Voilà, enfin bon, bref. Et c'était d'une justesse, là aussi, magnifique. Et je ne connaissais pas ce qu'il faisait. Donc, il me donne une pile, il me dit... Berroyer me dit... écoute, si tu sais pas ce que je fais, lis ça. Je suis rentré le soir avec une pile de petites chroniques qui s'appelait Ou à l'autre. C'était une colonne dans Harakiri. Et j'étais mais subjugué par la justesse, par et puis moi j'avais 23 ans, ce qu'il racontait, j'avais l'impression que c'était hier quoi, parce qu'il racontait des histoires de monde de 15-16 ans. Comme moi j'étais pas très dégourdi avec les filles non plus, donc moi ça durait après 16 ans. Donc tout ça c'était mon passé très proche, ce qu'il racontait. Et on s'est entendu tout de suite et on a eu l'idée de faire une bande dessinée. Enfin, Choron nous a demandé le seul cahier des charges, vous me faites quelque chose sur la planche à roulettes. Voilà. Et donc, on a fait un truc sur la planche à roulettes et ça s'est vendu.
Ah, mais ça a été un succès.
À 5000 exemplaires.
Alors aujourd'hui, on a.
Y compris la famille, voilà.
Alors aujourd'hui, on apprend plein de choses donc dans cet artbook sur votre goût pour le dessin d'histoire, la période de l'occupation. Mais avant tout, je reste sur la couverture. Un homme, une femme, comme toujours. Les femmes très jolies chez vous, peut-être trop. Vous êtes incapable de dessiner une femme qui ne soit pas jolie. Il n'y en a pas.
Eh bien, en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à dessiner les femmes quand elles sont jolies, mais pas dans la convenance, quoi. Pas dans le convenu. J'ai un mal fou à ça. Il y a un dessinateur qui parvient à ça, qui s'appelle Prado. Lui, il dessine les femmes vraiment telles qu'elles sont, et même quand elles sont pas, justement, il est pas comment prisonnier d'un de normes esthétiques calibrées, et en même temps, elles gardent une puissance de séduction incroyable, comme dans la vie. C'est-à-dire, et moi, je ne parviens pas à ça. Je suis un peu prisonnier tout le temps de filles très jolies.
Vous aviez une question justement sur les filles ou sur les femmes dans les albums. De Gibra Marc Lévy.
Je vous avais demandé si elles existaient dans la vraie vie.
Elles existent. Et je me souviens que j'ai pas dit Joker d'ailleurs.
Non. Non. Bah non, c'était avant formidable. De commencer l'émission, ouais.
Parce qu'on était au micro, peut-être, ouais, allez savoir.
Je pensais pas qu'on allait reposer la question.
Si, mais je peux en parler. Je peux en parler de ça maintenant. Je pouvais pas à une époque tellement j'étais. Mais dans le sursis, par exemple, c'était effectivement une histoire d'amour avant. Je
avant de connaître votre femme.
Ma femme. Mais
qui est d'ailleurs présente dans vos albums aussi quand vous l'avez rencontrée.
Oui, voilà. Alors ma femme, c'est Jeanne en fin de compte. Je me suis appuyé sur les photos de ma femme quand elle avait l'âge de Jeanne. Voilà. Et le personnage de Cécile du sursis, c'est la sœur de Jeanne. Et je pensais à une fille en particulier en la dessinant, mais je n'avais pas la documentation pour la dessiner elle réellement. Et donc j'ai fait la résultante des filles qui pouvaient me séduire, mais par contre le caractère et tout le reste c'était assez appuyé sur une femme qui existait quoi.
Et quand vous dessinez Pinocchia, parce que ça elle y est pas là dedans, je l'ai cherché.
Ça j'apprends encore plus ça que le titre. Hein.
Pinocchia, c'était l'album érotique que vous avez signé avec une figure du film porno de l'époque qui s'appelait Francis Leroy.
Oui.
Vous aviez signé lui au scénario, donc Francis Leroy quand même, c'était du hard au cinéma.
Ouais.
Et vous, c'était le dessin.
Moi, j'étais le, comment dire, le...
Mais comment vous étiez retrouvé dans cette aventure?
Mais alors voilà, c'est ça. Je vous,
Jean-Pierre Gibra.
Je consulte toujours depuis pour avoir la réponse à cette question. Pour commencer, pour des raisons totalement économiques, à savoir que j'ai signé un contrat chez Albin Michel, mais je savais pas trop ce qu'on allait en faire, finalement. Et au début, c'était Fromental. Je savais qu'il y aurait de la fesse, mais ça me gênait pas du tout. Mais je savais que ça serait de la fesse intelligente, quoi. Et si on peut dire que les fesses sont...
Oui, mais il y a de la fesse intelligente.
Elles peuvent l'être, voilà. Et il se trouve que ce pauvre Fromental a été déposé au milieu du guet. Et on m'a mis en partenaire, en tandem. Je me suis retrouvé à pédaler avec ce monsieur qui s'appelait
Francis Leroy.
Francis Leroy, et avec lequel la complicité était assez loin d'être non seulement celle que j'avais connue avec Berroyer, mais même celle que j'avais connue avec Fromental. Donc je me suis retrouvé à faire un truc qui me tombait des mains finalement et j'avais même signé pour un deuxième bouquin en touchant une avance et j'ai remboursé l'avance.
Pour ne pas avoir à signer.
Ah ouais, j'en pouvais plus.
Mais le dessin érotique vous gênait ?
Non, c'était pas que ça soit érotique, c'est le plus difficile à faire.
Ouais.
Faire un récit érotique, je trouve que c'est le plus difficile. Mais j'étais absolument tenté, je veux pas jouer les...
Non.
Absolument tenté de le faire, sauf que c'est le plus difficile. Et là, on était dans une version totalement affligeante, ridicule, qui faisait un peu de fesses, mais sans trop, en s'excusant d'en faire, le pire, quoi. Voilà. Genre les films porno de
Francis Leroy,
qui passaient sur M6, qui pouvaient être quand même regardés
par tout le monde,
pratiquement par tout le monde. Voilà, c'est ça, quoi.
Écrire une scène érotique, c'est difficile pour vous aussi, Marc Lévy?
Très.
Ouais, il y en a peu, hein.
Il y en a pratiquement. Il y en a une ou deux dans la première nuit.
Ouais.
Mais sinon, non, j'arrive pas. C'est très très difficile.
Alors, ce qu'il y a en revanche dans les albums de Jean-Pierre Gibrat, c'est tout un pan de l'histoire. C'est-à-dire, vous l'avez répété tout à l'heure, vous en avez parlé plutôt tout à l'heure, l'occupation, le Front populaire. Est-ce que ça signifie, et la question a été posée par Rebecca Manzoni, et j'ai la même, mais parce que j'y ai pensé immédiatement quand vous parlez de ce période-là, ça veut dire que pour vous, c'est difficile de dessiner le monde contemporain?
En fait, non, c'est pas que c'est difficile, c'est que mon dessin n'est pas approprié.
Alors ça, c'est très étrange de dire ça. En quoi votre dessin n'est pas approprié à dessiner aujourd'hui?
Pour une simple raison, c'est que il sera approprié si je faisais du dessin de presse. Et d'ailleurs, ça m'a tenté, j'en ai fait un petit peu, et c'est quelque chose. C'est assez marrant parce que le dessin de presse, c'est l'équivalent entre et la bande dessinée, c'est pareil que le journalisme et le roman, quoi. C'est-à-dire, on peut avoir envie de faire les deux avec la même gourmandise. Le dessin de presse, là, je pourrais parce qu'on vous appelle à un vendredi et le dessin, il a à faire pour le dimanche soir. Hein, vous avez 3 jours et au moins, il va être non seulement dans l'air du temps, mais il va traiter l'air du temps. Il va traiter, voilà. Mais un album, moi, je mets 2 ans. Alors, il va être mais totalement périmé au moment où il va sortir, et il n'aura plus aucun intérêt. Ça bouge tellement. À partir du moment où on veut faire du contemporain, les choses vont de plus en plus vite. Et même il y a 20 ans, elles allaient déjà trop vite, ouais, pour moi.
Une dernière question sur votre signature, parce qu'on parlait tout à l'heure, hein, vous avez même commencé là-dessus, Marc Lévy, sur le dessin absolument virtuose de Jean-Pierre Gibrat. Il y a quelque chose qui est encore plus virtuose, c'est que vous travaillez, comme peu de dessinateurs de bande dessinée, vous travaillez la lumière, c'est-à-dire donc les volumes, ce qu'il y a peu hein, quand même parmi vos collègues. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi un peintre contrarié?
Pas du tout, parce que à chaque fois que j'ai essayé de me laisser aller pratiquement vers la peinture, ça a été une catastrophe. Et il faut faire confiance à ces émotions d'enfance là aussi. Moi, ce qui me bouleversait quand j'étais gosse, c'était les dessins. C'était pas tellement les
tableaux. C'était pas la bande dessinée.
Pas spécialement, un petit peu, mais
c'était les gravures.
Tout ce que je pouvais trouver. J'avais par exemple mon père avait une vieille édition de 93 de Victor Hugo. Il y avait des gravures, mais c'était sublime. Et c'était du dessin là. Et en fin de compte, même chez les peintres, quand je pouvais tomber sur une esquisse préparatoire, ça me plaisait toujours mieux que le tableau. Donc finalement, je suis beaucoup plus séduit par le dessin que par la peinture en elle-même. Mais donc moi, mon travail, ça doit être du dessin mis en couleur et mis en lumière, plus que mis en couleur. Voilà,
et pourtant, il y a des planches en noir et blanc suivies par la même planche en couleur, et le noir et blanc, mais c'est magnifique.
Alors c'est autre chose, parce que là, c'était des grands dessins.
La débâcle. Ouais.
Voilà, il y en a un sur la débâcle, il y a un bivouac de la guerre de 14. C'est un moment où j'allais vraiment pas bien du tout, et j'étais incapable d'écrire. Moi, je fais pas partie des gens qui écrivent dans la, comment dire, le poète maudit, là, vous savez, que plus il est malheureux et plus il est sublime. Moi, c'est totalement, le robinet est totalement étanche, quoi. Vous avez coupé pour l'hiver, vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, je peux dessiner, et le dessin, c'est le contraire, me calme, je me réfugiais là-dedans. Et comme il y avait des expositions un petit peu prévu, mon galeriste Daniel Maguen m'a dit mais fais-moi des dessins, et si tu peux, fais-moi des grands dessins. Et j'ai profité de cette occasion-là pour faire des dessins que je n'avais jamais eu l'occasion de faire, avec une mise en scène foisonnante, copieuse, et voilà. Et donc là, en dessin, là justement, à partir du moment où ça reste en noir et blanc, quand l'objectif c'est de faire des choses les plus généreuses possibles en termes de mise en scène, il y a rien de mieux que le noir et blanc, parce que là il y a le trait et que ça, quoi. Donc tout est lisible et tout est défini.
Alors si vous voulez trouver L'hiver en été, c'est facile, hein, c'est l'album de Jean-Pierre Gibrat chez la maison d'édition Daniel Maguen.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous.
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
Vous restez avec nous, Jean-Pierre Gibrat et Marc Lévy. C'est la dernière partie de la première partie du Énervé. C'est toujours un peu compliqué. Avec vous, Soro Solo, direction l'océan Indien pour un duo féminin masculin. Mais qui sont-ils?
C'est Nathalie Natembe de La Réunion et Mounawar des Comores. Il faut dire que tous les deux, leur musique s'inspire des légendes, des contes, des mythes fondateurs de leur région pour écrire la condition humaine dans notre monde contemporain. Et tous les deux s'apprécient mutuellement. Mounawar, qui est plus jeune que Nathalie, quand il la voyait sur scène, il était fasciné par sa poésie et surtout par son côté punk. Et Nathalie, quand elle a découvert ce jeune cadet sur la scène, elle dit « Waouh, quelle énergie, c'est bien !» Et ils se sont dit « Mais un jour, faut qu'on fasse quelque chose. » Et c'est vrai que l'année dernière, ils ont décidé de créer un album ensemble et c'est « Pigment ». Black War, album sorti à l'automne dernier. Black War est extrait de Pigment, cet album que Nathalie et Mounawar présentent comme un récit de vie.
On avait parlé des émotions colorées. J'ai vu la fête des couleurs en Inde, où on jette les pigments. Donc tout ça, c'était des images comme ça devant les yeux. J'ai dit, cette création va s'appeler Pigment.
Ce projet, c'est qu'on trace l'existence d'un personnage, c'est-à-dire le début, sa naissance. Son vécu, il découvre les émotions, la peur, l'amour. Il a traversé la guerre, il a traversé jusqu'à la fin, il s'est suicidé. C'est l'existence de la fille de chacun parce que nous tous, on vit, on meurt.
Ouais, il faut que je rappelle que Nathalie Natembe, elle est sur la scène depuis 2 décennies, elle a déjà 5 albums à son actif. Et sa création musicale, je le rappelle, se nourrit du maloya de La Réunion, qui est la musique populaire de la région, mais aussi du reggae, du blues, du rock, du punk, de la chanson française, etc. Quant à Mounawar, lui, il s'inspire d'un chanteur américain qui a été une grande star du surf, qui s'appelle Jack Johnson. Et en s'inspirant de ce monsieur, il mélange son tarab et de ses racines musicales à l'afrobeat de Fela, à la pop de Kezia John. Et tous les deux, Nathalie et Mounawar, leur album Pigment est un cocktail de toutes ces influences-là.
Nataka kwesh na mapenzi ya koi Bawe de muma watinia wangoi Nataka kwesh na mapenzi ya koi Bawe de muma watinia wangoi oh, oh, oh. Nataka kwesh na mapenzi ya koi Bawe de muma watinia wangoi Nataka kwesh na mapenzi ya koi Bawe de muma watinia wangoi
Et voilà, l'album Pigment de Nathalie et Mounawar témoigne de l'esprit du maloya réunionnais et du tarab comorien et les musiques populaires de rituels sacrés au profane et le tout habillé avec un tempo contemporain.
Merci Soro Solo, on se retrouve mercredi prochain pour un autre voyage. Tout de suite on calme le jeu avec celle qu'on surnommait la All American Girl ou aussi la vierge la plus vieille du monde. Oui, Doris Day nous a quitté cette semaine, on avait envie d'écouter encore une fois sa voix dans une déclaration glamour.
See the setting sun, the evening's just begun, and love is in the air. Be mine tonight. At a time like this, would you refuse the kiss? I'm begging you. To share, be mine tonight. Promise this my own before the night is flown. You'll tell me that you care and hope. With
whisper love words, oh, so tender. Give your kisses in sweet surrender. Let your heart be mine tonight. Be mine tonight. Be mine tonight. Promise this my own before the night has flown. You'll tell me that you care and hold me so tight. Whisper love words, oh, so tender. Kisses in sweet surrender. Let your heart be mine tonight.
Be mine tonight, l'invitation sublime au plaisir de Doris Day, actrice et superbe chanteuse. Pour finir, le NRV, première partie. Et oui, on va se retrouver dans 25 minutes, hein, cette fois-ci, après le journal et les spots officiels de la campagne des élections européennes. Et on va se retrouver avec ça.
Nous déclarons.
Déclaramos.
Ouvert.
Abierto.
Le 72e Festival International du Film de Cannes.
Et nous, on va resserrer le débat sur le cinéma indépendant. Ça tourne ou ça coupe? Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.
Rendez-vous. Tu m'as donné rendez-vous demain.